VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raïssa Girondin en direct de Washington pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Les deux dirigeants coréens se sont engagés sur la voie de la réconciliation lors d'un sommet historique.
Pour la Corée du Nord, il y a un revirement complet puisque jusqu'ici, c'était le programme nucléaire qui passait avant tout.
Au Mali, 12 civils tués dans le nord-ouest à la frontière avec le Niger. En République démocratique du Congo, au moins 40 personnes sont mortes dans le chavirement d'une embarcation dans le nord-ouest du pays. Dans nos dossiers du jour, au Cameroun, des milliers de personnes victimes d'escroquerie d'une organisation.
Je me retrouve aujourd'hui à avoir investi 5 millions pour atteindre 24 millions de francs. Et ça a été coupé comme ça.
Dans la Minute Éco, les groupes français Orange et Vivendi veulent accélérer le développement du cinéma en Afrique. Et une page se tourne à Barcelone avec le départ confirmé d'Andrés Iniesta pour la Chine dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. Les dirigeants des deux Corées se sont engagés ce vendredi à œuvrer en faveur de la dénucléarisation. Lors d'un sommet historique dans la zone démilitarisée, Moon Jae-in et Kim Jong-un ont promis qu'il n'y aurait plus de guerre sur la péninsule. Yakuba Ouedraogo.
D'après la déclaration dite de Panmunjom, le village qui sépare les deux Corées, les deux dirigeants s'engagent solennellement devant les 80 millions de Coréens et le monde entier qu'il n'y aura plus de guerre sur la péninsule coréenne. Ils ont confirmé l'objectif commun d'une péninsule non nucléaire. Les deux leaders ont convenu d'une reprise en juin des réunions de famille séparées par la guerre. Ils ont décidé que le président sud-coréen se rendra à l'automne à Pyongyang. Les deux leaders ont aussi promis de ne pas répéter les erreurs passées qui ont vu tourner court de précédents accords. Kim Jong-un a affirmé que la Corée est au seuil d'une histoire nouvelle. Il est le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la guerre de 1950-1953. Il pourrait y avoir sur le chemin des difficultés et des frustrations, a souligné Kim Jong-un, prévenant toutefois qu'ils ne peuvent parvenir à la victoire sans douleur. Nord et Sud disent aussi vouloir rencontrer les États-Unis et la Chine pour établir un régime de paix permanent. Ce sommet inter-coréen est le prélude à un face-à-face attendu entre Kim Jong-un et Donald Trump.
Et c'est un sommet qui n'a pas manqué de susciter de nombreuses réactions dans le monde, comme nous le résume Herman Ongbo.
Des choses positives se passent, mais seul le temps permettra de juger, a déclaré le président américain dans un tweet. La guerre en Corée va se terminer, renchérit Donald Trump, qui a remercié son homologue chinois. Pékin met en exergue le courage de Kim et Moon. Le premier ministre japonais Shinzo Abe évoque un pas positif vers une résolution d'ensemble sur plusieurs questions concernant la Corée du Nord. Le Kremlin, quant à lui, parle de nouvelles très positives. Le secrétaire général des Nations Unies salue le courage et le leadership qui ont mené à des engagement important entre les deux Corées. Antonio Guterres compte sur les deux leaders pour mettre en œuvre rapidement ce sur quoi ils se sont mis d'accord.
Et la chancelière allemande Angela Merkel a été reçue ce vendredi à la Maison Blanche par le président américain Donald Trump. Assise à ses côtés dans le bureau ovale, le président américain en a profité pour louer une femme extraordinaire, assurant en dépit de réels moments de tension au cours de l'année écoulée, avoir eu toujours d'excellentes relations avec elle. Les taxes douanières et le dossier iranien ont été au centre de leur discussion. Trois Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats israéliens dans la bande de Gaza lors du cinquième vendredi consécutif de protestations le long de la frontière israélienne. Ces trois décès portent à 44 le nombre de Palestiniens tués depuis le début, le 30 mars, d'un mouvement de contestation appelé la Grande Marche du Retour. Ils revendiquent le droit de retourner sur les terres dont ils ont été chassés ou qu'ils ont fui à la création d'Israël en 1948. Et dans le nord de la Chine, un homme armé d'un couteau a tué 7 collégiens et en a blessé 12 autres alors qu'ils rentraient chez eux. Les attaques au couteau ne sont pas rares dans le pays. En février, un homme armé d'un couteau a tué une femme et blessé 123 personnes dans un centre commercial de Pékin.
Menaka s'est réveillée avec une nouvelle triste. La communauté Idasak est en deuil. Elle a perdu 12 personnes, dont des vieillards et des adolescents. Ils ont été à la surprise générale des habitants de Menaka, tués par des terroristes. Souley Diallo est enseignant à Menaka. Pour lui, il y a bientôt 3 mois que des combats se déroulent à la frontière Mali-Niger, et plus précisément à Andraboukane, située à 100 km de Menaka-Ville. C'est la coalition MSA Gatcha qui évolue dans cette zone contre les terroristes. Ils sont souvent épaulés par Barkhane et les FAMA. Le campement d'Atlis est une zone très proche du Niger. C'est une zone de repos des terroristes et autres bandits, explique l'enseignant. Certaines notabilités d'Andraboukane disent que Atlis est une zone très dangereuse. D'autres responsables de la région disent avoir appris avec tristesse ces exécutions. Le gouvernement de Menaka n'a pas voulu faire de commentaires. Les administrateurs préfèrent que des voix plus autorisées se prononcent sur cette manière de tuer des civils sans armes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et bien sûr, vous avez reconnu, notre correspondant au Mali, Kassim Traoré. Donc au Mali, 12 civils ont été tués par des hommes lourdement armés dans la nuit du jeudi au vendredi. Les assaillants venus à moto ont fait irruption dans un campement à Aklaz, une localité située à l'est d'Andé-Ramboukané, vers la frontière entre le Mali et le Niger. Au Nigeria, au moins 4 personnes ont été tuées lors d'un assaut mené par des combattants de Boko Haram à Maïdougouri. Le groupe a tenté une incursion hier soir dans un quartier périphérique de cette grande ville du nord-est. Les islamistes ont affronté l'armée et les milices d'autodéfense pendant plusieurs heures. L'attaque a finalement pu être repoussée avec l'arrivée de renforts aériens et terrestre, alors que les habitants fuyaient le quartier de Jidari-Pourlo. 5 kamikazes ont également été tués en déclenchant leurs explosifs et par ailleurs, 22 soldats de la force régionale déployée dans la région du lac Tchad ont été tués depuis le 5 avril. En République démocratique du Congo, au moins 40 civils sont morts, noyés dans le nord-ouest du pays. Ils tentaient de fuir vers le Congo-Brazzaville voisin. Des violences entre l'armée et des assaillants. Nathalie Barge.
Des embarcations transportant des villageois ont chaviré sur la rivière Oubangui, un affluent du fleuve Congo qui sépare les deux pays. Jusqu'à mercredi soir, nous avons récupéré 40 corps sans vie, des personnes noyées alors qu'elles traversaient cette rivière sous de fortes pluies accompagnées d'orages, a déclaré Jean Bakatoy, vice-gouverneur de la province du Sud Oubangui. Le bilan est encore provisoire parce que d'autres corps sont charriés plus loin par les eaux de la rivière, a-t-il précisé. Les faits remontent à lundi. Selon lui, un mouvement de panique a été constaté à Dongo qui a poussé la population à fuir après l'attaque à l'arme blanche d'une position de l'armée par des hors-la-loi. Des habitants ont dit avoir vu les corps de 2 soldats et 4 assaillants tués par balles. Les habitants de cette zone sont marqués par la rébellion de la communauté Enyel en 2009 et les opérations de l'armée qui ont maté les insurgés en 2010. Le bilan avait été de 270 morts et 200 000 réfugiés et déplacés.
Un activiste burundais, Germain Rukuki, qui a été condamné hier à 32 ans de prison pour sa participation aux protestations contre le 3e mandat controversé du président Pierre Nkurunziza, une peine dont la sévérité a été dénoncée par les défenseurs des droits de l'homme. Au Cameroun, 2 civils ont été enlevés par des hommes armés dans la région du sud-ouest anglophone, selon l'armée camerounaise. Depuis 3 mois, les groupes séparatistes armés multiplient les actions violentes contre des symboles de l'État, ce qui inclut des attaques de gendarmerie, des enlèvements de fonctionnaires et des accrochages avec l'armée. Le patron de l'ONU a décidé d'envoyer immédiatement à Madagascar son conseiller spécial pour ce pays, secoué depuis une semaine par une crise politique. Lors d'un appel téléphonique ce matin, Antonio Guterres a parlé avec le président malgache. Le secrétaire général a réitéré son appel au dialogue politique, offert ses bons offices et s'est mis d'accord avec le président pour envoyer immédiatement son conseiller Abdoulaye Batili pour aider à résoudre la crise. 7 morts dans un accident de train en Afrique du Sud. Le train a percuté ce vendredi un véhicule sur un passage à niveau de Blackheath à la périphérie du Cap. Les victimes sont des hommes âgés de la trentaine qui se rendaient au travail dans un pick-up. Et d'après le porte-parole du Metrorail, il s'agit d'une erreur humaine. 10 enfants avaient déjà été tués en 2010 au même endroit dans un accident similaire. Un film kényan, Rafiki, qui doit être présenté au prochain festival de Cannes, a été interdit ce vendredi de diffusion par les autorités, car, disent-elles, il fait la promotion du lesbianisme pour la commission de censure du Kenya. La promotion de l'homosexualité est illégale et heurte la culture et les valeurs morales du peuple kényan. Rafiki raconte l'histoire d'un coup de foudre entre deux jeunes femmes appartenant à des camps politiques opposés. La cinéaste kényane Wanuri Kayu estime que les adultes kényans sont assez matures et clairvoyants, mais que leurs droits ont été niés. Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Et c'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Les groupes français Orange et Vivendi veulent accélérer le développement du cinéma en Afrique. Ils ont créé un partenariat pour le réseau de salles Canal Olympia dans près d'une dizaine de pays sur le continent. David Kessler, directeur général d'Orange Studio, a indiqué qu'il produit 6 à 7 films africains chaque année et qui sont présentés lors de festivals. La hausse du dollar a provoqué la baisse des prix des métaux précieux. Jeudi, l'or est passé sous la barre des 1320 $, un plus bas depuis plus d'un mois. L'argent et le palladium ont en particulier suivi la même tendance. Cette hausse du dollar s'explique notamment par le relèvement des taux d'intérêt du Trésor américain et l'absence d'escalade dans les tensions géopolitiques, notamment la tenue du sommet intercoréen. Les États-Unis ont aussi annoncé un report de sanctions sur le groupe russe Rusal, premier producteur d'aluminium. La croissance américaine s'est accélérée à un rythme supérieur aux prévisions. Le produit intérieur brut a progressé de plus de 2% entre janvier et mars dernier. D'après le département du commerce, le produit intérieur brut reflète des contributions positives du côté des investissements, de la consommation, des exportations et des investissements dans les stocks.
Et c'est une musique d'ambiance qui annonce la page sport. Bonsoir Nicolas Pinault.
Bonsoir Raïssa, bonsoir à tous.
Une page se tourne à Barcelone après le départ confirmé d'Andrés Iniesta.
Proche d'un doublé Coupe Liga avec Barcelone, le capitaine historique a annoncé dans les larmes ce vendredi qu'il partirait en fin de saison. Et ce après 22 ans dans son club formateur où il laissera évidemment un grand vide. Il a gagné 31 trophées avec le Barça et Iniesta pourrait en décrocher un 32e puisque le FC Barcelone n'a besoin que d'un petit point pour être sacré champion d'Espagne dimanche à La Corogne, ce qui serait un 25e titre de champion en Liga pour le club.
En Angleterre, Manchester City, déjà champion, court après les records.
Après son carton contre Swansea le week-end dernier, 5-0, les hommes de Pep Guardiola ne sont plus très loin de connaître la meilleure saison statistique de l'histoire de la Premier League. Avec 90 points et encore 4 matchs à disputer, les Citizens sont lancés pour faire tomber la barre placée à 95 points par Chelsea lors de la saison 2004-2005. En cas de succès, Manchester City égalerait le record de 30 victoires des Blues la saison passée. Quant au record de 103 buts de Chelsea entre 2009 et 2010, eh bien les hommes de Pep Guardiola en sont tout proches avec 98 buts.
Le PSG, aussi champion, aura bientôt un nouvel entraîneur.
Et oui, l'entraîneur espagnol Unai Emery, en fin de contrat en juin prochain, a officialisé son départ du Paris Saint-Germain après 2 ans sur le banc de touche du club champion de France. Malgré un recrutement à plus de 400 millions d'euros pour se payer Neymar et Mbappé, le PSG, vous le savez, a été éliminé cette saison en Ligue des Champions. Sous le mandat d'Unai Emery, le club parisien a perdu son titre de champion en 2017 avant de le récupérer cette saison. Le PSG qui a remporté aussi le trophée des champions en 2016 et 2017, la Coupe de France en 2017 et la Coupe de la Ligue en 2017 et 2018. Et évidemment, ce n'est pas fini, il reste la finale de la Coupe de France.
Et Nicolas, on finit avec la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Milwaukee a obtenu sa finale en remportant devant son public le 6e match du premier tour des playoffs NBA. Victoire 97-86 face à Boston. Il faudra donc attendre le 7e match samedi pour connaître le prochain adversaire de Philadelphie. Quant au meneur de jeu de Golden State, Stephen Curry, absent depuis plus d'un mois, il pourrait faire son retour samedi lors du premier match du 2e tour des playoffs contre la Nouvelle-Orléans.
Merci Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Dirigeons-nous vers le Cameroun, où la préfecture de Yaoundé a interdit les activités de la Mission d'intégration et de développement pour l'Afrique, la MIDAR. Cette organisation distribuait depuis août 2017 de fortes sommes d'argent aux souscripteurs, à condition de déposer une caution de 12 500 francs CFA dans ses caisses. L'ONG a collecté plus de 12 milliards avant son interdiction, mais seulement 3 milliards ont été récupérés. Plus de 6 000 personnes ont été attirées par l'affaire et sont aujourd'hui anxieuses de pouvoir récupérer leur argent. C'est un reportage du correspondant de VOA Africa Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Escroquerie par appel public, existence illégale, usurpation de fonction, tels sont les motifs évoqués par le préfet de la ville de Yaoundé pour mettre un terme aux activités de la mission d'intégration pour le développement, MIDA. Depuis lors, Serge Biaillé, souscripteur, est un jeune homme désemparé.
Bon, je me retrouve aujourd'hui à avoir investi 5 millions pour attendre 24 millions de francs. Et ça a été coupé comme ça. Je comptais déjà faire beaucoup de choses.
Serge comptait sur 5 millions du MIDA pour financer son projet d'agriculture et d'élevage de volailles. Puis, habite à quelques mètres du siège du MIDA, au quartier Ahala à Yaoundé. Il avait misé 1,5 million en 4 mois pour un gain espéré de 6 millions de francs CFA. Il accuse l'État d'avoir failli à ses devoirs dans cette affaire.
Personne ne s'est plaint parmi les séminaristes, ceux qui venaient faire leur séminaire là pour espérer avoir de l'argent. Et si même aujourd'hui beaucoup de jeunes sont pris dans cette affaire, l'État du Cameroun a mis beaucoup de projets. Il y a eu un projet de jeunes, on a parlé de 102 milliards. Nous voulons voir ces jeunes-là. Il ne faut pas seulement qu'on demande aujourd'hui que pourquoi les jeunes sont là pour s'intéresser à ce genre de choses.
Le désarroi est encore plus grand au sein de la famille Ekoudi. 8 personnes au total. Toutes ont misé des millions de francs CFA. Julie est cependant la plus affectée de tous.
J'avais fait le séminaire 3 fois, on m'avait payé. C'est la 4e fois que j'ai tout misé, 4 500 000. Et j'attendais à 20 millions. Et j'attendais qu'on me paye. Et voilà qu'il y a des situations.
Des heurts entre souscripteurs, forces de l'ordre et de sécurité ont embrasé la situation au cours d'une journée, obligeant les autorités à placer le quartier à Hala sous surveillance policière. Les gendarmes, quant à eux, protègent le siège du MIDA, où l'accès est désormais interdit. Aucune réaction des autorités à la préfecture de Yaoundé et au ministère de la Communication. La présidente de la République a cependant prescrit le dédommagement de toutes les personnes ayant souscrit aux activités du MIDA. Son promoteur est encore gardé dans une compagnie de gendarmerie de Yaoundé. Plus de 2 milliards de francs CFA ont été recueillis par le MIDA pour le seul mois de février 2018. Emmanuel Julmta, Yaoundé, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Et direction le Togo, où un sondage d'Afrobaromètre fait couler beaucoup d'encre. 1200 adultes ont été interrogés sur des questions d'actualité dans le pays, ayant trait notamment au mandat présidentiel, au respect de l'ordre constitutionnel et au vote de la diaspora togolaise. Et les Togolais ne cachent pas leurs sentiments. 70% d'entre eux souhaitent le départ du chef de l'État, Faure Gnassingbé. De Lomé, le reportage de notre correspondante Kaye Lawson.
Selon les résultats de sondage d'Afrobaromètre piloté au Togo par le Centre de recherche et de sondage d'Opinion Crop, 87% des Togolais sont pour la limitation du mandat présidentiel. 70% des sondés estiment que l'actuel chef de l'État, qui est à son 3e mandat, ne devrait plus briguer un autre en 2020. Hervé Akinocho, directeur exécutif du Crop.
On remarque un fort soutien des Togolais à la limitation des mandats présidentiels à 2. Il y a quasiment 9 Togolais sur 10 qui sont pour la limitation du nombre de mandats à 2. La majorité des Togolais pensent également que le président Faure ne devrait pas se présenter aux élections si jamais la limitation à 2 mandats était adoptée. Par contre, ils sont relativement partagés sur la démission immédiate du président qui est demandé par un certain nombre d'acteurs.
Ces Togolais ont assisté à la publication des résultats de ce sondage et font leurs commentaires.
Il serait de bon temps qu'on tienne compte de ces résultats pour permettre à chaque acteur de pouvoir bien se repositionner et de prendre les solutions qu'il faut, parce que là, nous sommes en train de prendre une pente qui est en train d'engloutir tout le pays.
Moi, je dis, le dialogue est terminé. Donc, qu'on ne prolonge pas le dialogue, mais que les acteurs du dialogue prennent conscience de la situation.
Dans les détails, ces résultats dévoilent que 53% des personnes qui se disent proches du parti au pouvoir pensent que Faure Gnassingbé ne devait plus être candidat à la prochaine élection présidentielle. Pour le gouvernement togolais, ce sondage manque de professionnalisme. Guy Madié Lorenzo, ministre de la Communication.
Ce sondage n'engage que ceux qui les ont commandités et ceux qui les ont publiés. Il n'y a aucun fondement scientifique dans le travail qui a été fait. Nous en connaissons tous les visées. Un sondage qui sort à ce moment-là, avec des résultats totalement tendancieux, pour nous, c'est un non-événement. Je ne pense pas que si on avait posé réellement la question aux militants d'Unir, ce serait passé ainsi. Qui ont-ils interrogé? Eux seuls le savent. Et l'échantillonnage pour un travail scientifique qui puisse avoir une portée, qui puisse signifier quelque chose, n'est même pas respecté.
Une meilleure vulgarisation des résultats de ce sondage peut influencer le cours normal des choses au Togo, estime l'analyste André Afanou.
Afrobaromètre dit que Faure Gnassingbé a déjà fait 3 mandats. C'est beau, c'est bien, y compris au sein du parti au pouvoir. Les gens disent qu'en 2020, pour la stabilité du pays, il serait bien qu'il ne se présente pas. Ça, de mon point de vue, confirmé par une enquête aussi crédible que Afrobaromètre, c'est une information. Si on ne devait publier que ça toute la semaine, je suis sûr que ça aurait un impact non seulement sur le parti au pouvoir, mais sur les missions diplomatiques, sur la médiation. Donc je pense que ce qui est important, c'est que cette information-là soit vulgarisée au maximum.
Kailasson, Lomé, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et revenons sur le sommet historique entre les deux Corées. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in se sont engagés à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et à signer un accord de paix. Pour une analyse du sommet et de ce qu'il représente, Anastasie Tudiech s'est entretenue avec Marie-Orange Rivet, membre du Centre de recherche sur la Corée à l'École des hautes études en sciences sociales.
Déjà, c'est un succès, puisque le fait même de l'organiser, de réussir à mobiliser les Nord-Coréens de la part du président sud-coréen, c'est déjà un exploit. Il y a encore un an, c'était une chose totalement impensable. Donc, de ce point de vue-là, déjà, et de par la qualité des annonces qui ont été faites dans la déclaration conjointe, c'est déjà pas mal.
Qu'est-ce qu'on entend par dénucléarisation exactement, en termes d'étapes ?
Alors justement, là c'est une très bonne question, parce que je pense que les Sud-Coréens, les Nord-Coréens, voire les Américains ou les Chinois n'ont pas du tout, à mon sens, la même vision des choses. En tout cas, ce qui est très important, c'est qu'on soit d'accord sur le principe. Pour la Corée du Nord, il y a un revirement complet, puisque jusqu'ici, eh bien, c'était le programme nucléaire qui passait avant tout. Ce qu'on peut noter, c'est que peut-être que le dernier essai nucléaire qui a provoqué un tremblement de terre sous la montagne, puisque c'est en sous-sol, sous la montagne, eh bien, ça a peut-être détruit le site lui-même. Donc pour les Nord-Coréens, le fait de dire de dénucléariser, peut-être que c'était le bon moment. Mais sur ce plan-là, bon, je n'ai pas de preuves précise.
Quelles sont les contreparties prévues justement pour l'après-dénucléarisation ?
Alors là aussi, il n'y a rien de concret dans la déclaration. Ce qui va se jouer dans le sommet entre la Corée du Nord et les États-Unis dans un mois à peu près, là, ce sera à mon sens beaucoup plus concret. Pour l'instant, on a bien compris que Kim Jong-un, le leader nord-coréen, voulait des garanties en termes de sécurité pour mettre en place cette dénucléarisation, ça se comprend. Et donc, il pourrait y avoir l'élaboration d'un projet commun de sécurité de la péninsule. Mais bon, là encore, il y a des étapes, notamment la signature d'un traité de paix qu'il faudrait déjà franchir.
Marie-Orange Rivet, quid du Japon ?
Le Japon pensait pouvoir se remilitariser grâce à la menace nord-coréenne. Si cette menace disparaît, évidemment, ça va être beaucoup plus difficile pour le gouvernement donc japonais de justifier en interne la transformation de l'article 9 de sa constitution. Pour l'instant, c'est un succès, en tout cas, tout à fait pour les Coréens eux-mêmes. Il y avait une grande... d'un point de vue affectif, en tout cas, ça a remué beaucoup de choses et c'est vrai que ça c'était important avant les questions purement politiques.
Et c'était Marie-Orange Rivet, membre du Centre de recherche sur la Corée à l'École des hautes études en sciences sociales. Et on atterrit aux États-Unis. Une colline verdoyante surplombant la ville de Montgomery en Alabama accueille un nouveau mémorial, le premier du genre dans le pays, en mémoire des victimes de la terreur raciale et du lynchage. Il a été fondé par l'Initiative pour une justice égale, une ONG qui espère que cette œuvre va contribuer à changer le discours racial en Amérique. Kané Farabo a couvert hier l'ouverture de ce musée. Son reportage est rendu par Idriss Fah.
Parmi les nombreux visiteurs, Isoke Femi, qui a quitté la Californie pour venir assister à l'ouverture de ce musée de l'héritage. Elle s'est levée tôt hier et a fait la queue pour obtenir un ticket d'entrée. Le plus dur étant derrière elle, Isoke Femi peut alors étaler son émotion après ce qu'elle a vu ici.
Mon expérience ici, c'est une douleur profonde.
Le musée de l'héritage est bâti sur le site d'un ancien entrepôt d'esclaves de Montgomery, à l'époque épicentre du commerce esclavagiste aux États-Unis. Ce musée expose l'asservissement des gens de couleur et les incinérations de masse pour aider à comprendre ce que les Noirs ont subi aux États-Unis. Le révérend Jesse Jackson, leader des droits civiques, a assisté à l'ouverture.
5 000 Noirs ont été lynchés entre 1880 et 1940.
Juste à côté du musée se dresse un mémorial pour la paix et la justice. Avec des arbres et son espace vert, il veut honorer les victimes de lynchage et raviver un souvenir tragique pour les arrière-petits-fils d'esclaves. Le révérend Jesse Jackson.
Nous devons faire face à la vérité sur nos origines. Nous sommes une société post-génocidaire, post-esclavagiste et post-Jim Crow.
Et nous ne sommes pas encore devenus une société post-raciale, estime Mark Potok de la Southern Poverty Law Center.
Ce sont les Blancs de ce pays, particulièrement ceux du Sud, qui ont fébrilement peur de faire face au passé.
Pour cet écrivain, à cause du racisme et de la bigoterie, particulièrement dans l'État de l'Alabama qui accueille ce musée et ce mémorial, ce passé n'est pas consigné dans les livres d'histoire. Et il faudrait, selon lui, se rappeler qu'il y a tout juste 15 ans, la majorité des Blancs de cet État ont voté pour garder les écoles séparées. Le révérend Jesse Jackson précise de son côté qu'il y a encore quelques 4 millions de Noirs qui ne sont pas inscrits pour voter dans le Sud. Le chemin à parcourir est encore long, surtout avec les récentes bavures policières contrées par le mouvement Black Lives Matter.
Et ainsi s'achève Le Monde Aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Lionel Gaïma, à la console, Sidwat Franklin, Raissa Gironda à la présentation. Reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.